Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, la version dérivée, la version en podcast de l'émission de télé que l'on retrouve tous les matins, je vous rappelle, à partir de 9h28, 9h29, en direct sur France 2. Aujourd'hui, dans le podcast, l'occasion d'entendre ou de réentendre, enfin en tout cas d'entendre si vous avez raté ce matin dans l'émission, le témoignage de Lucille qui a été opérée. Et son bébé a été sauvé in utero, une opération in utero. Rendez-vous compte de la prouesse médicale et rendez-vous compte du stress, bien sûr, pour cette future maman. Donc on va entendre Lucille qui va nous raconter son histoire, très forte, je vous préviens tout de suite. Et puis derrière, nous serons avec le professeur Jean-Marie Joannic, qui est chirurgien fœtal à l'hôpital Trousseau. Chirurgien fœtal, on imagine bien ce que ça veut dire. On a hâte d'entendre ses propos après le témoignage de Lucille. C'est parti.
D'une dizaine d'années, hein, j'insiste, moins d'une dizaine d'années, une femme enceinte dont le bébé était atteint de certaines malformations n'avait que deux choix, soit donner naissance à un bébé handicapé, soit choisir d'interrompre la grossesse. Il y a moins de 10 ans, donc c'était hier. Bonjour Lucille.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes la maman de Mathia qui a 6 ans et de Clara qui a 4 ans. Ouais. Et donc, pendant la grossesse de Clara, donc deuxième grossesse, on a détecté à votre fille une anomalie de la colonne vertébrale qui peut entraîner une paralysie, des troubles neurologiques, donc c'est un truc très très grave. Et grâce au progrès de la chirurgie, Clara a pu être opérée avant la naissance, à l'intérieur du ventre, à l'intérieur de votre utérus, dans la poche des os. Et aujourd'hui, elle vit quasiment normalement, elle marche. Enfin voilà, donc on va revenir avec vous sur ce petit miracle. Vous avez eu votre premier enfant, Mathia, il y a 6 ans par PMA. Tout s'est super bien passé. Début 2017, vous tombez enceinte de Clara, toujours grâce à la procréation assistée. Alors, quand et comment est-ce que vous avez appris qu'il y avait un souci ?
Alors, bah, nous, on était suivis donc, à Cochin, mais comme c'est une grande maternité, du coup, on faisait tous les examens à l'extérieur. Mmh. Et à la fameuse échographie du deuxième trimestre, on est allé dans un cabinet privé et la femme qui m'a fait les examens a vu qu'il y avait quelque chose, mais elle n'arrivait pas à voir parce que Clara n'était pas bien positionnée. Et donc, elle nous a redemandé de faire l'échographie à Cochin.
D'accord.
Ce qu'on a fait 15 jours après.
D'accord. Et là, à Cochin, on vous dit quoi alors ?
Silence de mort, parce que du coup, ils voulaient être sûrs avant de nous dire quoi que ce soit. Donc, ils ont vraiment poussé à fond. Et là, on nous dit que sa colonne vertébrale est ouverte, qu'elle a une hydrocéphalie et que c'est suffisamment grave, oui, pour envisager le pire.
Donc, ils sont pessimistes à ce moment-là ?
Plutôt, oui.
Vous le sentez tout de suite, quoi ?
Oui.
Donc, évidemment, j'imagine un choc parce que vous parlez de deuxième trimestre, ça veut dire que la grossesse est bien engagée. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vous proposent comme solution à ce moment-là ?
Au moment de l'échographie, donc, on nous propose l'après-midi même un rendez-vous avec la spécialiste de Cochin. Et donc, ça, c'était le matin, l'échographie. Et donc, voilà, elle devait nous dire exactement ce qu'il en était. Mmh. Et
vous avez réussi à avoir un rendez-vous l'après-midi même.
Oui, ce qui est, on a eu beaucoup de chance.
J'imagine les heures d'attente interminables.
Oui.
Dans quel état d'esprit vous étiez à ce moment-là ?
Alors, moi, complètement dans un déni total. Mmh. Voilà, je me suis rappelée que j'avais entendu parler d'une opération in utero il y a plusieurs années. Et donc, pendant toute l'attente, en fait, on a passé notre temps avec mon mari à chercher les informations pour être sûr que ça existait vraiment.
C'est-à-dire que vous avez eu un flash pendant ces heures d'attente. Vous avez dit, mais je n'ai pas entendu parler justement d'une opération in utero. Et alors, le médecin vous en a parlé aussi ?
Non.
Pendant le rendez-vous, non ?
Non, elle ne voulait pas. Elle nous disait que c'était encore en protocole et que du coup, il pouvait y avoir un risque pour moi.
D'accord. Alors, grâce à votre détermination, parce que c'est là où, quand on est mère, évidemment, ça prend le pas sur tout le reste. Vous avez obtenu un rendez-vous la semaine suivante à Trousseau, six jours après le rendez-vous dont on vient de parler. Comment ça s'est passé ?
Alors, super bien. Vraiment, une équipe d'une humilité incroyable. Vraiment, ils nous ont tout expliqué. Ils ont fait déjà tous les examens aussi. Et en fait, la malformation était moins grave que prévu.
Parce que ce qu'il faut quand même préciser, c'est que lors de votre rendez-vous précédent, on vous avait vraiment dit, voilà, le spina bifida, puisque ça s'appelle comme ça, de votre fille, est ultra grave. Donc vous êtes partie avec quand même très peu d'espoir de ce rendez-vous.
Bah, on nous avait dit, voilà, notamment que son hydrocéphalie impactait le cerveau aussi. Donc voilà.
Donc il y aurait des séquelles très graves.
Neurologiques, oui. Et en fait, en faisant du coup tous les examens à trousseau, on s'est aperçu que, en effet, elle avait une hydrocéphalie, mais que ça n'impactait pas le cerveau. Que du coup, elle se développait vraiment comme il fallait. Que au niveau de la colonne vertébrale, elle était, sa malformation commençait aussi beaucoup moins haute que prévu. Mm-hmm. On avait quand même trois lombaires de moins que prévu par rapport à ce qu'on nous avait dit. Et que la malformation, si, avec l'opération, quoi qu'il en soit, démarrait à partir du genou.
D'accord. Donc ouais. Déjà, l'espoir renaît un peu à ce moment-là.
Bah, totalement.
Alors, vous ressortez de là, vous vous dites, bon, il y a enfin une lumière au bout du tunnel. Et les médecins vous disaient quoi par rapport à ce que donnerait l'opération après? Quelles étaient les promesses?
Alors, bah, déjà, l'opération ne guérit pas. En fait, la malformation, elle l'empire, parce qu'avec les nerfs qui sont en dehors du, coup, du dos, on perd de la sensibilité à cause du liquide amniotique.
Mmh, d'accord.
Donc, plus tôt on referme, bah, plus tôt on stoppe la malformation, mais on ne la guérira pas. Et ils espèrent à chaque fois gagner environ deux lombaires supplémentaires sur la colonne vertébrale et pour la motricité. Et nous, ça a été le cas.
Mais ils vous ont parlé de comment elle serait à la naissance ou ils ne se sont pas trop mouillés?
Si, bah, en gros, on savait que donc, sa malformation commencerait donc, au niveau du genou, que voilà, les problèmes de moteur, ça serait, elle ne serait pas en fauteuil roulant. Qu'elle serait dans le pire des cas avec des béquilles et des attelles, mais que du coup un semblant de vie normale était possible.
Et vous, comment est-ce que vous avez pris votre décision alors avec votre conjoint?
On a énormément marché dans Paris. Je pense que là on a fait des kilomètres et des kilomètres tous les jours où on n'était que tous les deux. Mes parents s'occupaient de notre fils et voilà, on a parlé énormément. Voilà, et ce qui nous a aussi beaucoup aidé, c'est que mon fils était en halte garderie. Mmh. Et donc, quand on a découvert la malformation, j'en ai parlé avec la directrice qui, direct, nous a dit « foncez, nous, on s'occupera d'elle quand il faudra la garder. S'il faut former quelqu'un, on la formera et on s'occupera d'elle comme n'importe quel enfant. »
Ça, c'est formidable.
Oui, énormément de solidarité et vraiment, c'est assez réconfortant.
Oui. Alors, le 6 mars, tout est validé avec l'équipe. Il faut dire que ça allait très, très vite, en 15 jours, finalement. Si je calcule bien.
Ouais, entre la découverte à Cochin et l'opération, il y a eu 15 jours.
C'est ça. Donc, 6 mars, tout est validé. Vous êtes opéré le 9 mars à 25 semaines d'aménorrhée plus 6 jours. C'est-à-dire, c'est 5 mois et demi de grossesse, précisément. Ça s'est passé comment, l'opération? Comment ça se déroule?
Alors, ça se déroule, en fait, du coup, je suis endormie complètement parce qu'ils sont pas encore, à cette époque-là, ils n'étaient pas encore totalement au point pour faire en célioscopie, si je ne me trompe pas le terme. Et donc, ils ouvrent le ventre jusqu'à atteindre la poche des os. Clara était aussi endormie et ils l'ont opérée directement dans mon ventre.
Alors, à quel moment est-ce que vous avez pu voir à l'échographie les petites jambes de Clara bouger?
Alors, ça, c'était une écho de suivi, parce qu'après, du coup, j'étais suivie tous les 15 jours pour une échographie, pour voir si tout se passait comme prévu. Et je ne sais pas, peut-être un mois après, on a eu le droit à un magnifique déroulé d'une de ses jambes en pleine échographie.
Extraordinaire.
Ouais. Il faut savoir aussi qu'avec cette malformation, il y a le cervelet qui, comme la colonne vertébrale est ouverte, le cervelet descend dans la nuque, ce qui comprime aussi du coup pour le développement. Et à partir du moment où on referme, le cervelet remonte en fait et reprend sa place.
Donc là déjà à l'échographie, vous avez vu que tout était très, très revenu
vite,
à sa place.
Eux, ils ont mis peut-être 2 jours à nous le dire après l'opération, mais tout de suite après, ils voyaient que petit à petit, ça remontait.
Alors, vous avez passé évidemment le reste de votre grossesse au repos, ça, oui. J'imagine bien. Clara est née le 20 mai 2017, c'était un mois avant le terme. L'accouchement s'est bien passé?
Oui, la césarienne, parce que forcément, on accouche après en césarienne, puisque l'utérus n'a pas eu le temps de cicatriser de la première opération. Était programmée le 26 mai. J'ai eu un contrôle le 19 mai à Trousseau, tout était nickel, voilà. Je devais les revoir que pour la césarienne. Et le lendemain, je me suis pas... Enfin, j'étais un peu fatiguée, enfin, comme en fin de grossesse, quoi. Et le soir, je me suis pas sentie bien, donc on est allé quand même faire un contrôle, parce que je devais surtout pas contracter, c'était vraiment déconseillé et tout ça. Oui. Et quand j'y suis allée, bon, au début, on m'a regardé un peu, genre, ça va, c'est léger. Et après, ils ont regardé mon dossier, ils ont dit, ah non.
Et, on vous accouche.
Et la gynécologue de garde, oui, du coup, m'a dit, bah, on vous garde et on provoque la césarienne maintenant.
Donc, j'y vais. Alors, une PMA, toute la malformation, l'opération. Comment ça s'est passé, la première rencontre après tout ça avec Clara ?
Moi, je ne l'ai pas vue tout de suite, parce que déjà, elle est née en pleine nuit. Et en plus de ça, on m'avait prévenu juste avant la césarienne que comme elle naissait quand même 5 semaines avant terme, il y avait de fortes chances pour qu'elle fasse une détresse respiratoire et que du coup, ils l'emmènent directement en néonat.
Vous étiez prévenue ?
Oui. Ah oui, bah par contre, à chaque fois, on nous a toujours prévenus de tout ce qui allait se passer. Enfin, voilà, on nous a jamais rien caché.
Et alors, quand vous l'avez vue pour la première fois ?
Eh bien, c'était le lendemain midi. Et donc, son papa, lui, a remarqué direct qu'elle avait ce qu'on appelle les pieds talus, donc les pieds qui remontent vers la jambe. Et moi, je m'étais focalisée sur ses oreilles qui n'étaient pas totalement terminées. C'était vraiment un petit détail, mais voilà, c'était genre, il y a ça en plus.
Oui.
Et elle a juste passé le week-end en néonate et après, elle a pu revenir avec moi.
Et là, aujourd'hui, comment elle va alors ? Elle a
très
des séquelles,
bien.
Beaucoup ?
Alors, elle a quand même une faiblesse musculaire. Elle n'a pas ce qu'on appelle le galbe du mollet.
On la voit sur la photo, je veux dire, elle marche, c'est extraordinaire.
Ouais, elle marche, elle court, elle saute. Bah, après, elle a un grand frère qui est très dynamique et ils sont hyper complices. Mmh. Donc, il la pousse tout le temps en fait, vers le haut, elle veut tout faire comme lui.
Donc, elle a une vie quasiment normale, cette petite Clara.
Oui, elle n'a qu'une séance de rééducation par semaine. Et par contre, elle a, comme pour tous les enfants atteints de cette malformation, elle a donc, une incontinence urinaire et fécale. Mais voilà, tout est mis en place. Elle a des infirmières à l'école qui viennent s'occuper d'elle. Enfin,
ouais, je veux dire, elle revient de loin. Hein. C'est une survivante.
Ah, puis elle a un caractère de survivante.
Le magicien, mais magicien scientifique, il est à ma droite, le professeur Jean-Marie Joannic. Bonjour, professeur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes gynécologue obstétricien, chef du service de médecine fœtale à l'hôpital Armand Trousseau à Paris. Depuis 2014, donc, votre équipe opère in utero, avec succès, hein, on l'a vu. Mmh. 21 fœtus, vous avez opéré suite au diagnostic de spina bifida, la malformation donc, dont souffrait Clara. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que là, forcément, pour nous, néophytes, ça paraît totalement improbable, est-ce que vous pouvez nous parler des grandes étapes de l'opération dont a bénéficié la petite Clara ?
La maman de Clara, elle vous a expliqué les choses. Gisèle Benjamin, c'est venue une experte du domaine. Pour dire les choses simplement, pour Clara, on a utilisé une technique de réparation qu'on dit à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'on commence comme par faire une césarienne qui permet d'accéder à l'utérus qui contient la grossesse, à l'utérus gravide, puis ensuite on fait une petite ouverture sur 5-6 cm qui permet d'accéder à la cavité amniotique. On ouvre délicatement les membranes pour éviter qu'elles se déchirent, et puis au travers de cette petite fenêtre, on va manipuler le fœtus pour faire en sorte que le bas du dos du fœtus apparaissent au travers de cette petite fenêtre. Puis ensuite, nos collègues neurochirurgiens vont faire cette réparation. Ils vont recouvrir la moelle et les racines pour éviter qu'elles ne s'abîment jusqu'à la fin de la grossesse. Et puis, deuxième point important, ils vont faire en sorte que la malformation soit étanche pour éviter que la fuite du liquide céphalo-rachidien au travers de cette malformation s'arrête. Et pour protéger le cerveau fœtal, et vous avez entendu la maman de Clara, je dis bien, vous parlez d'hydrocéphalie, c'est-à-dire cette dilatation des cavités, et en stoppant la fuite, on va faire en sorte que cette dilatation s'arrête et que la partie postérieure du cerveau reprenne progressivement sa place.
On a une question pour vous de Clarisse.
Non,
mais depuis le début, je vous dis que je suis impressionnée et c'est vraiment le cas. Clarisse vous demande quels sont les cas autres que le spina bifida pour lesquels on va opérer in utero.
Alors, d'abord, depuis Clara, il y a un deuxième type de réparation qu'on est en train de tester à Trousseau actuellement, qui s'appelle la fœtoscopie, qui s'applique pour les spina bifida. Le début est similaire, comme une césarienne, on expose l'utérus et au lieu de faire cette incision qui abîme un petit peu l'utérus et qui peut être source de complications, on va introduire des petits trocars, des tubes en plastique, au travers desquels on va introduire une petite caméra pour voir ce qui se passe dans la cavité amniotique et avec des instruments comme une célioscopie, faire cette réparation avec la même qualité. Et puis il y a d'autres malformations ou d'autres anomalies qui peuvent bénéficier de chirurgie fœtale, les plus couramment utilisé dans notre pays, le traitement du syndrome transfuseur-transfusé.
Ouais. Ah oui, oui.
Un type très particulier de grossesse gémellaire qui ont la particularité que les fœtus partagent le même placenta. Et dans certains cas, il peut y avoir une sorte de déséquilibre circulatoire entre les deux fœtus. Et donc, on vient coaguler sélectivement des communications qui se passent au niveau du placenta. Mmh. Deuxième type ou troisième type de chirurgie fœtale possible dans notre pays, une forme particulière de malformation pulmonaire, la hernie de coupole diaphragmatique, et la possibilité, en fœtoscopie, de venir introduire un petit ballonnet dans la trachée du fœtus, le gonfler, pour aider la croissance pulmonaire. Mmh. Ces deux dernières techniques sont différentes de ce que nous faisons par le fait qu'elles sont totalement sous écho transcutanée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une intervention première, comme une césarienne, pour exposer l'utérus. Mais rien ne dit que dans quelques années, pour le spina bifida, on pourra faire, entre guillemets, tout en transcutanée.
On a reçu une question, on voyait en vidéo pour vous de Leslie. Regardez.
Bonjour à tous. Je voulais savoir aujourd'hui quelles sont les maladies, les malformations et les organes qu'on ne peut pas encore opérer in utero et quelles sont celles que l'on peut espérer opérer demain et dans les années à venir. Merci beaucoup.
Voilà les grands espoirs pour demain.
Alors d'abord, j'ai entendu moi deux parties dans cette question. Ouais. D'abord, il y a des malformations pour lesquelles on ne sait pas encore modifier le cours naturel des choses. Et vous savez que dans notre pays, lorsqu'on fait un diagnostic prénatal d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, il est possible, à la demande de la patiente, d'organiser une interruption médicale de la grossesse. Tout à l'heure, et la maman de Clara l'a très bien dit, on propose la chirurgie fœtale pour le spina, on dit qu'on va amoindrir le handicap, mais nous ne sommes pas des magiciens, malheureusement. On ne sait pas complètement gommer ce handicap. Et puis ensuite, j'ai entendu une deuxième partie dans la question qui concernait d'autres pathologies fœtales. Alors on sait, et là on sort du champ de la chirurgie fœtale, on sait traiter certaines anomalies fœtales, par exemple donner des médicaments antiarythmiques à une maman dont le fœtus a le cœur qui bat la chamade. Et là, on va utiliser la voie dite transplacentaire. Dans certains cas, on va aller injecter le médicament dans la cavité amniotique, un peu comme quand on fait une amniosynthèse. Je pense notamment au dysfonctionnement de la thyroïde fœtale. Et puis, peut-être que dans un avenir proche, on saura aussi venir corriger certaines anomalies génétiques. Et puis, il y a quelques années, à Trousseau, mais ce sont des thérapies d'exception, on a traité un fœtus qui avait une forme très rare de déficit immunitaire. Il se trouve que la maman a contracté une infection pendant la grossesse et on a décidé d'une transplantation de moelle épinière in utero et on est venu injecter des cellules de moelle épinière qui avaient été prélevées chez un membre de la fratrie.
Tout à l'heure sur France 2, vous avez dit en une phrase que vous aviez déjà pu réaliser une transplantation de moelle épinière sur un fœtus.
De moelle osseuse.
De moelle osseuse. Voilà, déjà, j'ai rien compris.
Merci, docteur.
De moelle osseuse. Vous nous expliquez comment c'est possible, ça.
C'était un cas très, très particulier d'un fœtus pour lequel on avait pu démontrer qu'il était atteint d'un déficit immunitaire combiné sévère. Sa maman a contracté la toxoplasmose, qui est une infection relativement banale.
Mais toutes les femmes enceintes ont un peu peur, quand même.
Absolument. Et là, le cas était particulier, parce que si jamais cette infection était transmise au fœtus, il était incapable de se défendre. Donc, il a fallu, de manière très rapide, décider cela. Et donc, on a prélevé des cellules souches de moelle osseuse chez un membre de sa famille, qui était...
Sa grande sœur, c'est ça?
Je crois,
oui.
Me souvenir.
Vous avez un petit doute?
Non, je voulais rester...
Anonyme, bon.
Ah mais bon, pardon.
Non.
Quelqu'un
de
la famille.
Et puis donc, elles ont été préparées dans un service spécialisé de l'hôpital Necker. Et puis ensuite, on a injecté ces cellules sous contrôle échographie dans le cordon ombilical. Et puis, ce petit fœtus, il a pu, en quelque sorte, régénérer son immunité grâce à cette transplantation. Il n'a pas été nécessaire de le retransplanter après la naissance. Mmh. Parce qu'habituellement, ces enfants sont transplantés quelques semaines ou quelques mois après la naissance.
Après la naissance.
Alors, on a une question de Clem qui vous demande à partir de combien de semaines de grossesse peut-on envisager la chirurgie fœtale ?
Il y a, actuellement, on considère que la meilleure fenêtre se situe entre à peu près 22-23 et le maximum est 26 semaines. Parce que
si et le minimum, du coup, c'est 22 semaines.
Oui, on ne veut pas faire plus tôt parce qu'on pense qu'il y a un risque de rupture des membranes qui est plus grand. Et puis, si on le fait plus tard, eh bien, on risque de perdre le bénéfice d'un temps long de recouvrement de la moelle et des racines dont je vous ai parlé tout à l'heure pour avoir vraiment le bénéfice maximum de cette chirurgie.
À propos de l'anesthésie fœtale, Sonia vous demande si elle est sans danger pour le fœtus.
Ah, c'est une question très pertinente. Parce que pour ce protocole, on a sélectionné, pour faire l'anesthésie générale chez la maman, on a sélectionné des drogues qui soient les moins néfastes possibles pour le fœtus. Et puis, on a aussi sélectionné des drogues qui sont très importantes pour nous parce qu'elles vont complètement relâcher l'utérus pendant toute l'intervention. Ça, c'est une clé de réussite. Et puis, le fœtus dort parce qu'on a endormi la maman.
Oui, c'est ça, j'allais vous demander. Il n'y a pas d'anesthésie, pardon, je vous ai interrompu, il n'y a pas d'anesthésie spéciale.
J'allais y
répondre. Ah, pardon.
Le fœtus dort parce qu'on a endormi la maman. Et en plus, juste avant de l'opérer, juste avant que mes collègues neurochirurgiens ne commencent vraiment la réparation, on fait une injection intramusculaire au fœtus complémentaire.
Ah oui,
donc anesthésie locale aussi.
Enfin, c'est une anesthésie, une analgésie qu'on fait complémentaire au fœtus.
Bon. Pardon, mais on pique où?
On pique, en fait, ben, je vous ai dit tout à l'heure, on amène le bas du dos au travers cette petite fenêtre. Ouais. Et donc, tout autour de la malformation, on a des muscles qui s'appellent les muscles paravertébraux. Mmh. Et on fait une petite injection musculaire, comme si vous ou vous, je vous faisais une injection dans la fesse aujourd'hui.
OK. Bon.
On n'a pas hâte, il n'y a pas d'urgence.
Non. Nora vous demande si le fait d'avoir bénéficié d'une chirurgie fœtale pendant la grossesse modifie le type d'accouchement. Est-ce que du coup c'est une césarienne qui est plus fréquemment non qui est plus qui est obligatoire du coup ?
Ça aussi c'est une question très pertinente. Tout à l'heure je vous ai décrit la chirurgie à ciel ouvert qui reste la technique de référence dont a bénéficié Clara avec le témoignage de sa maman. Dans cette situation, la zone d'ouverture de l'utérus reste fragile pour toujours, donc impose une naissance par césarienne, c'était le cas pour Clara,
d'accord,
et pour les grossesses suivantes.
Okay.
Et la deuxième technique qu'on est en train de développer à Trousseau actuellement, qui est la fœtoscopie, elle autorise un accouchement par les voies naturelles, et donc pour nous, c'est vraiment une technique auquel on croit dans l'avenir. Je vous ai dit trois fœtus ou pas, je vous le dis, donc trois fœtus opérés dans mon service par fœtoscopie. Mmh. Pour les deux premiers cas, les mamans ont accouché à terme par les voies naturelles et ça, c'est un vrai bénéfice.
Mmh. Ça fait combien de temps que vous faites ce genre d'opération ?
On a ouvert le centre à Trousseau avec Michel Zera, pour lequel j'ai une pensée parce qu'il nous a quittés en septembre. Et on a réfléchi à ce programme dans les 15 dernières années. On a ouvert le centre à Trousseau en lien avec son équipe en 2013. La première petite fille est née en 2014, voilà un petit peu l'historique.
Mmh.
Et puis, on veut pas s'arrêter là, hein, parce que les résultats sont meilleurs. Je vous dis qu'on amoindrit le handicap, mais on ne le gomme pas, et on veut faire plus pour ses enfants. Et on travaille énormément en parallèle à des thérapies complémentaires. Et je pense qu'il y aura une place pour la thérapie cellulaire, c'est-à-dire qu'en plus de cette chirurgie, on viendra déposer un petit patch, comme une espèce d'enveloppe sur la moelle et les racines, avant de les recouvrir. Et dans ce petit patch, on place des cellules souches qui vont aider à la régénération des tissus nerveux. Et on a pour l'instant des résultats préliminaires qui sont très intéressants. Mais pour ça, nous avons besoin de beaucoup d'argent pour la recherche.
Et où est-ce qu'on peut donner justement pour la recherche spécifique ?
On peut donner à la Fondation Sorbonne Université, hein, mm-hmm, puisqu'on a une sorte de compte qui est ouvert au sein de notre hôpital pour cette chirurgie. Et puis, on va organiser dans les mois qui viennent des opérations de levée de fonds auprès de mécènes. Mais on vous tiendra au courant.
Bien sûr. Tenez-nous au courant. En plus, vraiment sérieusement, parce qu'on sera ravis de relayer. Nous, on est pour la recherche.
Alors qu'il y a d'autres émissions de télé,
ils sont contre la recherche.
La France est à la pointe, non, sur ces questions ?
La France a toujours été à la pointe en matière de diagnostic prénatal. Les pionniers du diagnostic prénatal sont français. Dans mon service, on fait beaucoup de transfusions in utero pour des cas d'anémie fœtale, la moitié de l'activité du pays. Et le geste d'aller mettre une aiguille sous contrôle éco-guidé au niveau du cordon ombilical en transcutané a été décrit par un Français, Fernand Dafos. Beaucoup de pionniers de cette médecine sont français. Et puis notre pays a une deuxième caractéristique, c'est que le taux de dépistage des anomalies fœtales par échographie est exceptionnel en France et envié par tous les pays qui nous entourent.
Donc ça vaut le coup de le dire. Je vais vous poser à l'antenne la question que je vous ai posée hors antenne. Vous aussi, vous êtes un pionnier dans ces interventions. Comment vous dormez la veille de ces grandes premières, quand il y a une grande opération comme ça, forcément stressante?
Du sommeil du juste. Parce qu'en fait, cette première, on l'a répétée dans ses moindres détails des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Chaque personne, on était 15 en salle, hein, il y a 15 personnes en salle, hein, anesthésistes, infirmières, penseuses, chirurgiens. Toutes ces personnes savaient précisément ce qu'elles devaient faire à quel moment. Et vous voyez, il y a une des sages-femmes de mon équipe qui a assisté à cette première intervention et qui m'a dit « on avait l'impression que vous faites ça depuis 20 ans ». Mais c'est le cas de beaucoup de choses en médecine. Puis maintenant, vous savez, la simulation est en train de se développer énormément.
Et c'est ça, donc en fait, vous faites des simulations pendant plusieurs jours avant.
Absolument. Et là, on travaille sur un modèle vraiment de simulation, notamment pour les développements autour de la fœtoscopie dont je vous parlais tout à l'heure, pour aider à l'entraînement des équipes qui ont moins l'habitude de ces gestes-là.
Donc, vous aviez bien dormi?
Très bien.
Sans problème.
Vous dormez mal, Benjamin? Peut-être un petit problème.
Moi, quand j'ai un rhume, je dors mal, mais écoutez.
Léonie vous demande à quoi est due cette malformation appelée spina bifida. Est-ce qu'on peut la prévenir et comment?
Plusieurs facteurs qui expliquent cette malformation. Normalement, l'arrière du dos se ferme comme une fermeture éclair, pour dire les choses simplement, très tôt dans la grossesse. Parfois, il y a un ou deux points de la fermeture éclair qui saute. En revanche, il y a une chose qu'on sait, c'est qu'une femme qui a un désir de grossesse, qui va prendre une vitamine qu'on appelle l'acide folique 4 à 6 semaines avant la conception,
Avant la conception, c'est très important. Elle me regarde avec un air un peu condescendant. Vous venez d'arriver dans cette
émission. Non, pas du tout condescendant. J'étais en train de me dire, il faut quand même que ce soit du coup des grossesses prévues, désirées, etc.
Moi, je l'ai pris au moment où j'ai su que j'étais enceinte. En fait.
Comme beaucoup de femmes, malheureusement. Le fait de prendre de l'acide folique réduit de 60% le risque de survenue de spina, donc c'est quand même pas rien. Et on a fait une étude dans le service à partir de données nationales de la Sécu qui ont démontré que seulement 15% des femmes, un peu comme vous, ne le prenaient au mieux qu'en début de grossesse. Mais je pense que ce problème, on le résoudra par une meilleure information des femmes. Et puis enfin, la vie d'une femme maintenant, c'est il faut se projeter dans tout prévoir, tout anticiper. Et peut-être qu'il faut qu'on fasse comme d'autres pays, les États-Unis, le Canada et l'Angleterre vient de le décider récemment, enrichir par exemple les farines en acide folique pour pas que les femmes... Il y a plein d'injonctions qui pèsent sur les femmes pour tout.
Oui.
Penser, anticiper, etc.
Je vous pose une petite question. Est-ce qu'il y a une répartition géographique de cette malformation? Est-ce que l'endroit où on vit peut influer, impacter justement le développement de cette malformation?
Il y a quelques zones qui sont... où l'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas, est un petit peu plus élevé. C'est le cas de la Bretagne, qui est chère à mon cœur. Et puis, c'est le cas dans d'autres pays du monde. Je pense notamment à la Turquie. Donc, effectivement, il y a des facteurs génétiques, mais ils sont nombreux et multiples. C'est-à-dire que s'il y avait un seul facteur génétique, ce serait, entre guillemets,
c'est pas environnemental, en tout cas. Il y a peut-être une composante.
Non, en revanche, il y a une cause pour cette malformation qui est représentée par certains médicaments, et notamment... un médicament qui marche très bien pour l'épilepsie et qu'on déconseille de prescrire à une femme qui a un désir de grossesse, je pense à la dépakine,
parce
que ça a défrayé la chronique énormément.
Oui, d'accord.
Alors, on a une question de Claude qui vous dit « Le bébé de ma fille va être opéré in utero dans les prochains jours. Quels sont les risques d'une telle opération pour la mère et pour le fœtus ?»
Pour la maman, on va essayer de réduire ses risques au maximum, un peu comme quand on organise une césarienne. En l'examinant, en lui faisant un bilan sanguin et en la préparant à cette chirurgie. Pour la maman, le risque, il est surtout obstétrical, entre guillemets, quand on fait une chirurgie à ciel ouvert, parce que cette cicatrice va être fragile un peu pour toujours. Et puis, pour le fœtus, l'ennemi numéro un, c'est l'accouchement prématuré. Les bébés, pour la chirurgie à ciel ouvert, naissent en moyenne 3 semaines plus tôt que les autres. Donc, l'ennemi numéro un, c'est vraiment la prématurité. On espère, par l'amélioration de nos techniques, je vous ai dit, les deux premiers cas de fœtoscopie opérés dans le service, les mamans ont accouché à terme par les voies naturelles. Donc ça, ça nous fait avoir beaucoup d'espoir pour le futur.
Voilà, merci infiniment à Jean-Marie Joannic, le professeur Jean-Marie Joannic, je le rappelle, chirurgien fœtal à l'hôpital Trousseau à Paris. Et merci à Lucille qui a accepté de raconter toute cette incroyablement dure histoire à Agathe Le Caron. Donc merci à toutes, merci à tous, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à aller vous faire tous les autres épisodes en replay, il y en a pour tous les goûts. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mardi on parlait des la difficulté de devenir papa, le papa blues, j'allais dire papy blues, non, ce serait autre chose, le papa blues. Mercredi, on a parlé de l'obésité adolescente. Bref, si vous voulez entendre cet épisode, il est en ligne, bien sûr. Et puis, on peut aussi signaler l'épisode qu'on a mis en ligne samedi dernier, un épisode inédit qui fait pratiquement une heure à propos des parcours de PMA, procréation médicalement assistée. N'hésitez pas à l'écouter, n'hésitez pas à le partager autour de vous si vous avez des proches, des amis, de la famille qui vivent actuellement ces parcours, qui sont bien souvent, il faut bien le reconnaître, des parcours du combattant. Allez, demain, on entend un autre témoignage fort, celui de Sylviane. Sylviane, une mamie qui a élevé ses deux petites filles. Donc, on se retrouve pour en parler demain, 9h30, France 2, ou alors en podcast, quand vous le souhaitez. Ciao tout le monde.